messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les principaux titres de l'actualité de ce mardi 13 avril.
Fukushima, Tokyo officialise sa décision de rejeter en mer les eaux contaminées. Pénurie de semi-conducteurs, sommet virtuel à la Maison Blanche avec 19 entreprises dont Samsung. Covid-19, la Corée du Sud à la porte d'une quatrième vague. Enfin, fonds iranien gelé. Washington réitère sa position sur les sanctions.
Direction tout de suite le Japon. C'est désormais officiel, comme on s'y attendait. Le gouvernement nippon a décidé aujourd'hui de déverser en mer les eaux contaminées de la centrale nucléaire de Fukushima. Son chef Yoshihide Suga entérinait cette décision en Conseil des ministres. Conformément à cela, ces eaux seront rejetées dans l'océan Pacifique dès le début 2023, après les travaux nécessaires, et les opérations devraient durer environ 30 à 40 ans. Depuis la catastrophe de mars 2011, quelques 140 tonnes d'eau usée sortent chaque jour de la centrale accidentée et son exploitant TEPCO les stocke dans des citernes gigantesques. Mais les autorités nippones ont évoqué la possibilité d'acter la solution d'un rejet en mer, invoquant que les capacités de stockage sur place devraient arriver à saturation à l'automne 2022. Actuellement, environ 1,25 million de tonnes sont stockées. Si le démantèlement des réacteurs endommagés débute à l'horizon 2051, un plus grand volume d'eau contaminée devrait s'échapper, de quoi provoquer la colère, non seulement des pêcheurs et des organisations environnementales de l'archipel, mais aussi de ses voisins comme la Corée du Sud et la Chine.
Séoul a vivement réagi contre la décision officielle de Tokyo de déverser en mer les eaux contaminées par la catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima, une décision qui a été rendue ce matin. Le gouvernement sud-coréen a exprimé ses profonds regrets et s'est engagé à prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurité de la population. Il en a fait part à l'issue d'une réunion interministérielle convoquée en urgence après l'annonce de Tokyo. Effectivement, l'exécutif a dénoncé une solution qui ne saurait être acceptable. Dans le même temps, il a exhorté l'administration de Yoshihide Suga à rendre publique avec transparence toutes les informations sur le traitement des eaux issues de la centrale accidentée et d'annoncer aussi que Séoul lui transmettra le mécontentement des Sud-Coréens et réclamera des mesures concrètes destinées à assurer leur sécurité et éviter les pertes environnementales. Le pays du matin clair fera aussi part de ses inquiétudes à la communauté internationale en particulier à l'Agence internationale de l'énergie atomique pour demander à celle-ci d'inspecter l'état des eaux à rejeter. Il exercera en parallèle des contrôles plus poussés sur la radioactivité des produits made in Japan. Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a fait venir aujourd'hui à son siège l'ambassadeur du Japon à Séoul, Koichi Aiboshi, pour protester contre la décision de Tokyo sur les rejets dans l'océan. À cette occasion, son second vice-ministre, Choi Jong-moon, a fait part de la désapprobation de Séoul au représentant nippon qui a pris ses fonctions il y a tout juste 2 mois.
La décision nippone a également fait réagir le monde politique et le groupe civique sud-coréen. Lors d'une réunion aujourd'hui, le chef du comité politique du Minjo, la majorité présidentielle, a affirmé qu'il s'agissait d'une mesure qui menace la sécurité des Sud-Coréens et l'environnement maritime et qui n'est pas conforme non plus aux critères internationaux. La porte-parole du Parti de la Justice, une petite formation progressiste, a quant à elle qualifié la décision de Tokyo d'énorme désastre pour les pêcheurs nippons comme pour les pays voisins. Même son de cloche du côté du parti du pouvoir du peuple, la principale formation de l'opposition, un de ses élus membres de la commission des affaires maritimes de l'Assemblée nationale, a dénoncé une décision irresponsable et a revendiqué son retrait immédiat. Une coalition nationale d'une trentaine d'organisations environnementales et plusieurs autres associations civiques ont elles aussi manifesté leur colère. Elles ont tenu des conférences presse séparés devant les locaux anciens ou actuels de l'ambassade du Japon à Séoul pour protester contre l'annonce de Tokyo. Les participants ont évoqué notamment l'engagement pris en 2015 par TEPCO. Selon eux, cet opérateur de la centrale avait alors promis de poursuivre le stockage des eaux traitées sans les relâcher. Les condamnations se multiplient aussi sur les réseaux sociaux.
Toute l'actualité de toute la Corée, c'est ici sur KBS World Radio.
On part maintenant aux États-Unis. La Maison-Blanche a organisé hier une réunion virtuelle sur la pénurie mondiale de semi-conducteurs en y invitant les patrons de 19 groupes électroniques et automobiles, dont le sud-coréen Samsung Electronics, avec pour but de les écouter sur la manière d'améliorer l'approvisionnement en puces électroniques. Dans sa brève prise de parole, le président Joe Biden a annoncé que son pays investirait lui aussi de manière agressive dans les semi-conducteurs et dans les batteries. La Chine et le reste du monde n'attendent pas. Il n'y a aucune raison que l'Amérique attende, a-t-il affirmé. À cette occasion, l'entreprise américaine Intel et la taïwanaise TSMC, l'un des principaux fabricants de semi-conducteurs, ont promis un plan massif d'investissement dans leurs usines. Et le géant de l'électronique sud-coréen Samsung semble envisager de le faire lui aussi à hauteur de 20 000 milliards de won, l'équivalent de 15 milliards d'euros. Cependant, la présidence américaine n'a pas annoncé de contrepartie en échange de ses engagements.
Et en Chine, le ministère des Affaires étrangères a annoncé hier avoir nommé son nouveau représentant spécial pour la péninsule coréenne à un poste vacant depuis presque 2 ans. Il s'agit de Li Xiaoming, ex-ambassadeur en Corée du Nord de 2006 à 2009, puis au Royaume-Uni de 2009 à début 2021. Cette nomination est intervenue un peu plus d'une semaine après la rencontre des ministres des Affaires étrangères sud-coréens et chinois. Jiang Uyong et Wang Yi se sont entretenus le 3 avril à Xiamen en Chine. Pékin a alors annoncé son intention de jouer un rôle actif dans le processus de paix dans la péninsule. L'attention se tourne désormais vers son possible engagement dans le dossier nucléaire nord-coréen. Effectivement, en faisant hier l'annonce du nouvel envoyé spécial, le ministère chinois a précisé qu'il maintiendrait la communication avec les pays concernés et jouerait aussi un rôle constructif dans le processus politique de la question de la péninsule.
Crise sanitaire à présent. Un total de 542 nouveaux cas positifs au Covid-19 et 5 décès supplémentaires ont été recensés ces dernières 24 heures, ce qui porte le total cumulé à 110 688 contaminations et 1775 décès. Jusqu'à hier, pas moins de 1 195 000 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin. Le virus reste toujours actif au point que la semaine dernière, le taux de reproduction est monté jusqu'à 1,12 et celui des contaminations dont l'origine est inconnue à 28,2%. Les autorités sanitaires considèrent que cette semaine sera déterminante pour éviter un basculement dans la quatrième vague de l'épidémie qui, selon elles, sera pire que la troisième. Face à une telle situation, elles ont mis en place plusieurs mesures. Il s'agit notamment de maintenir les restrictions sanitaires actuelles jusqu'au 2 mai, de dépister davantage de personnes et de renforcer leur soutien pour distribuer au plus vite les autotests.
Les autorités de santé sud-coréennes considèrent que le pays entre dans la quatrième vague de Covid-19 au vu des données épidémiologiques. Celles-ci font état d'un taux de reproduction supérieur à 1 pendant plus de 2 semaines. Inquiet, le président de la République a convoqué hier une réunion extraordinaire au cours de laquelle lui et les principaux acteurs de la gestion de la crise sanitaire ont fait l'état des lieux de la situation. À cette occasion, Moon Jae-in a alerté sur un possible rebond désormais incontrôlable de l'épidémie. Il en a profité pour faire connaître le calendrier de l'approvisionnement en vaccins anti-Covid. Selon le chef de l'État, la production du sérum de Novavax dans des usines sud-coréennes débutera dans le courant du mois. Par ailleurs, l'administration de sécurité des produits alimentaires et des médicaments annoncés et qu'elle venait d'entamer l'examen de la demande déposée par le laboratoire américain Moderna avant d'exporter son vaccin vers le pays du matin clair.
Invité à commenter les propos du premier ministre sud-coréen Jong Se-gyun sur les fonds iraniens gelés en Corée du Sud, le département d'État américain a affirmé que les États-Unis maintenaient toujours leur position sur les sanctions contre l'Iran. C'est la réponse de son porte-parole à l'agence de presse Yonhap. Ned Price a alors recommandé de demander plutôt l'avis au gouvernement sud-coréen. Fin février, l'officiel américain a réitéré que Washington était en discussion avec Séoul sur ce sujet, en soulignant que le ministère sud-coréen ukrainien des affaires étrangères avait annoncé dans un communiqué que les fonds iraniens seraient débloqués seulement après les négociations avec les États-Unis. Price a alors également ajouté que la Corée du Sud jouait un rôle prépondérant dans l'exécution des mesures contraignantes contre Téhéran et Pyongyang. Washington continue d'exhorter l'Iran à respecter l'accord sur le nucléaire comme condition de la levée des sanctions. Le département d'État américain aurait donc exprimé une position négative sur le propos de Jiang de façon détournée. Celui-ci, lors de sa visite en Iran, avait affirmé que les fonds gelés appartenaient à l'Iran et qu'il conviendrait de chercher un moyen pour qu'ils soient rapidement restitués. C'est la fin de ce journal présenté aujourd'hui par Yoon Hae-jang et Thierry Laplanche. Merci de votre fidélité et belle soirée à tous.